Vous écoutez, on lit pour vous.
Où sont passés les animateurs de moins de 40 ans? Un texte de Étienne Paré, paru le 17 janvier 2026 dans La Presse. À TVA et à Radio-Canada, la plupart des têtes d'affiche ont la cinquantaine, parfois la soixantaine. Ce n'était pas ainsi il y a 20 ans. Voire il y a une dizaine d'années encore. Comme si le bassin de personnalités qui peuvent animer une émission à heure de grande écoute avait cessé de se renouveler. Lorsqu'on jette un œil à la programmation télé de la saison 2015-2016, la situation était tout autre. Les deux principales chaînes de télé confiait encore les rênes d'émissions phares à des animateurs relativement jeunes et souvent peu expérimentés. À TVA, par exemple, Marie-Pierre Morin, qui avait alors à peine 29 ans, héritait de sa première émission à heure de grande écoute. À Radio-Canada, Jean-Philippe Vautier, 36 ans, faisait ses débuts en variété. Jean-Philippe Dion était aussi de cette nouvelle garde à l'époque. Signe que le milieu de la télé a pris de l'âge, l'animateur de 42 ans est encore parmi les plus jeunes têtes d'affiche du petit écran 10 ans plus tard. Je fais un peu partie de la dernière génération de gens qui peuvent se présenter comme des animateurs de métier. Aujourd'hui, les jeunes qui veulent animer ont moins d'occasions de faire leurs preuves. Musique Plus, qui a été une école pour tellement de monde, n'existe plus. Il y a beaucoup moins d'émissions qui embauchent des chroniqueurs, observe l'animateur de Sucré Givré. J'en reçois encore des CV de gens qui veulent animer, dit Jean-Philippe Dion. Mais la réalité, c'est que je ne sais pas quoi faire avec. Il n'y a plus tant d'opportunités pour eux. L'animateur et producteur s'est fait un point d'honneur de s'entourer de nouveaux venus comme collaborateurs à son émission Sucré Givré. Mais il ne se berce pas d'illusions. Mettre de nouvelles têtes en onde n'attirera pas davantage les jeunes qui ne regardent plus la télé traditionnelle. L'expérience d'abord. Il s'en trouvera toujours pour dire que les moins de 40 ans délaissent la télé traditionnelle parce que les principaux animateurs ont parfois l'âge de leurs parents. Or, faire ce calcul serait simpliste, selon Jean-Philippe Dion. S'il existe un lien entre les deux phénomènes, il est tout au plus indirect. La crise que vit le milieu de la télé a un lien avec le fait que l'on voit moins de nouvelles têtes, dans la mesure où il y a beaucoup moins de prises de risques qu'avant. Les budgets sont serrés. On a moins de jours de tournage. Le temps en montage est compté. On peut beaucoup moins se permettre de travailler avec quelqu'un qui a moins d'expérience, avance Jean-Philippe Dion. On valorise aujourd'hui davantage l'expérience que le vent de jeunesse que peut apporter un animateur à une émission, explique Jean-Philippe Dion, producteur, entre autres, du Tricheur. Dans le processus pour trouver un remplaçant à Guy Jodoin, à la barre du jeu questionnaire l'an prochain, c'est d'abord et avant tout ce facteur qui a été pris en considération. La décision s'est finalement arrêtée sur José Godet, dont la feuille de route est bien garnie. Déficit de notoriété. Les diffuseurs sont aussi moins portés à renouveler leur programmation. Il y a 20 ans, une émission de divertissement durait généralement quelques saisons avant d'être remplacée par une autre, même quand les codes d'écoute étaient encore honorables. Aujourd'hui, les émissions qui fonctionnent bien sont pratiquement automatiquement reconduites. Infoman en est à sa 26e saison. Tout le monde en parle à sa 22e. Alors qu'En direct de l'univers dure depuis 17 ans. Toujours avec les mêmes animateurs, intrinsèquement liés au succès de leur émission. Il y a beaucoup de succès qui durent, ce qui explique en grande partie pourquoi il y a autant d'animateurs de plus de 50 ans. Par contre, quand je vois les nouveaux shows, ce sont quand même des gens plus jeunes. Je pense à Marie-Mé avec Big Brother Célébrité ou à Marc-André Grondin pour Hot Ones. Ça me dit qu'il y a quand même un renouvellement. Mais c'est vrai que ce sont plutôt des gens dans la quarantaine que dans la trentaine. 40 ans, c'est pas mal le sweet spot en télévision maintenant. Observe Charles Lafortune qui entame sa 11e saison à la barre de La Voix. L'animateur de 56 ans vient d'une époque où ce sweet spot était plutôt dans la trentaine, la tranche d'âge dans laquelle se situaient, il y a 20 ans, les grosses vedettes de l'heure, comme Véronique Loutier, Sébastien Benoît, Julie Snyder, Guy Jodoin, Julie Bélanger ou encore Mélanie Ménard. Bref, les mêmes qui sont aux commandes des principales émissions de divertissement deux décennies plus tard. C'est plus difficile aujourd'hui de trouver des trentenaires qui sont des points d'ancrage que tout le monde connaît, nous dit Charles Lafortune. De la même manière que quand on fait La Voix, c'est beaucoup plus difficile de trouver de nouvelles chansons que tout le monde connaît. Il y a moins de références communes, mais les annonceurs cherchent encore des gens qui ont une grande notoriété, poursuit Charles Lafortune, qui porte également le chapeau de producteur. Moins d'intérêt à animer. Pour la saison 2025-2026, la moyenne d'âge des animateurs à Radio-Canada s'élève à 52 ans et à 53 ans pour TVA. C'est 10 ans de plus qu'à Novo, qui ne s'est jamais caché de vouloir rejoindre un auditoire plus jeune, notamment avec Occupation double et ses deux animateurs dans la vingtaine. Le vieillissement des têtes d'affiche à la télé est un sujet vraisemblablement délicat pour les diffuseurs. Ni TVA, ni Radio-Canada n'a accepté de nous parler. Le producteur Guy Villeneuve insiste pour dire qu'il ne note aucune réticence de la part des grands réseaux à embaucher des animateurs plus jeunes. Au contraire même. Il se souvient que TVA était emballé à l'idée que Sarah-Jeanne Labrosse anime la compétition de danse Révolution produite par sa boîte Fairplay. C'est plutôt la comédienne, à l'époque dans la fin de la vingtaine, qui s'est longtemps montrée hésitante, avant de finalement se laisser convaincre. S'il y a moins de jeunes qui animent à la télé, c'est aussi parce qu'il y a moins de jeunes qui veulent animer. Avant, tous les humoristes voulaient avoir leur émission. Ça leur permettait de vendre des tickets, de rester dans l'œil du public entre deux tournées. Ils en ont beaucoup moins besoin maintenant. Pour dire oui à un projet, il faut vraiment que le concept leur parle, souligne Guy Villeneuve. Méthodologie. Dans le cadre de cet article, nous avons analysé la grille horaire des trois grands réseaux généralistes durant l'automne et l'hiver 2025-2026, 2015-2016 et 2005-2006. Nous avons pris en compte l'âge des animateurs des émissions de divertissement. Cela inclut Salut bonjour et Salut bonjour week-end, mais pas les émissions d'information, comme les bulletins de nouvelles, Enquête ou JE. Les émissions qui font partie du mandat de Radio-Canada, comme Découverte ou La facture, n'ont pas non plus été prises en considération. Nous ne nous sommes pas non plus intéressés aux émissions diffusées en plein cœur de la journée le week-end. C'était Où sont passés les animateurs de moins de 40 ans? Un texte de Étienne Paré, paru le 17 janvier 2026 dans La Presse.
Un chien osqué pour apaiser la souffrance. Un texte de Chloé Bourquin paru le 19 octobre 2025 dans La Presse. Oh, hello Sky! Lorsque Léa Renault entre avec son husky dans le centre de jour de la rue des Femmes, les sourires illuminent instantanément les visages des résidentes. Peu à peu, plusieurs s'approchent du chien pour le flatter. Sky lèche la main d'une résidente qui laisse s'échapper un petit rire. « C'est-tu une fille? »«
Oui,
c'est une fille, » répond Léa Renault. « C'est toujours la question qui arrive en premier, » nous glisse-t-elle. « Surtout dans un refuge comme celui-ci, qui accueille des femmes en situation d'itinérance et qui ont bien souvent été victimes de violences. » La jeune femme de 27 ans suit une formation en zoothérapie depuis 2 ans avec Sky, à Trois-Rivières. En parallèle, elle réalise aussi un doctorat en cancérologie. Elle espère devenir oncologue et que la zoothérapie pourra l'aider à accompagner ses patients en soins palliatifs. C'est seulement la deuxième fois que Sky vient dans ce refuge, situé au cœur du centre-ville de Montréal, mais les résidentes semblent s'accoutumer aisément à sa présence. Un premier contact avait déjà été établi quelques semaines auparavant. Ça a vraiment été une belle expérience, souligne Célia Medina, coordonnatrice à l'intervention. De l'extérieur, on pourrait penser que les résidentes sont simplement contentes de revoir ce magnifique husky de 3 ans. Mais la présence de Sky permet aussi de les apaiser, de les aider à s'ouvrir et à rétablir des liens qui sont parfois brisés depuis longtemps. Un effet apaisant. Mélanie, prénom fictif, vient d'arriver au refuge le matin même. Elle attend, dans une petite salle, de voir si on a une place pour elle. Visiblement très nerveuse, elle se tord les mains, se lève et se rasseoit sur sa chaise. À ses pieds sont posés quelques sacs de plastique contenant ses affaires. Le chien entre dans la pièce et va spontanément se coucher à ses pieds. Léa Renault nous expliquera plus tard qu'elle est capable de sentir l'anxiété. Elle propose à Mélanie une activité. Cacher dans un tapis de fouille des friandises, puis laisser Sky les chercher. Mélanie acquiesce et se prête au jeu. Elle cache des récompenses sous l'œil attentif du chien, tout en racontant son histoire. Elle vient de perdre son logement dont le loyer avait explosé. Toutes ses affaires sont maintenant dans un entrepôt. Son employeur n'est pas au courant de sa situation. Elle ne savait plus à quelle porte frapper et a fini par arriver ici. C'est spécial comment la vie peut soudainement changer de direction, souffle-t-elle en regardant Sky fouiller méticuleusement dans le tapis. Quelques minutes plus tard, elle finit par pousser un soupir et esquisse un petit sourire. Ça m'aide à ne pas trop penser à mes problèmes, dit-elle. J'étais vraiment sensible ce matin. J'étais sur le point de pleurer. Je me sens vraiment plus calme. Reprendre le contrôle. Léa Renault propose à deux résidentes de faire un autre jeu avec Sky. Marcher avec elle à travers une pièce et lui donner des ordres quand elle rencontre une cône colorée. Es-tu prête, Sky? Allez, on y va, lance Marie-Claude Nardini, ravie, en enfilant une veste de zoothérapie dont les poches sont remplies de friandises. Le chien, très enthousiaste, répond aux ordres sans se faire prier, récompensé chaque fois d'une caresse et d'un morceau de canard séché. S'ensuit une séance de lancer de balles à l'extérieur, ce qui permet au chien de se défouler et aux résidentes de prendre l'air. Ça m'enlève mon anxiété automatiquement. Je me sens plus en contrôle sur moi-même, nous confie Marie-Claude Nardini, qui est au refuge depuis plusieurs mois. Le chien est comme un levier d'action, explique Léa Renault. Ça permet une ouverture sur le vécu. Sky permet, par exemple, de faire le miroir des émotions des résidentes, les aidant à les verbaliser. Au cours de la matinée, plusieurs se sont adressées à la chienne, lui demandant si elle était tannée, fatiguée, ou si elle avait mal quelque part. Ça permet de voir où elles en sont elles-mêmes dans leur parcours, souligne sa maîtresse. La première fois que Sky est venue au refuge, certaines victimes de violences étaient d'abord réticentes à l'idée de s'approcher d'elle. Puis, elles ont fini par venir la flatter. Pour certaines, c'était la première fois qu'elle retouchait quelqu'un depuis très longtemps, indique Léa Renault. Un chien probablement maltraité. Quand elle l'a adopté, il y a un peu plus de 2 ans, Sky était dans un refuge de la SPCA depuis 6 mois. La chienne devenait folle, s'automutilait et était sur le bord de se faire euthanasier. Personne ne voulait d'elle. Il disait que ce chien-là, on ne pourra rien en faire, qu'elle était foutue, raconte Léa Renault. Mais bon, je pense qu'elle va plutôt bien, lance-t-elle en flattant la chienne, sagement couchée à ses pieds. On lui a dit qu'il était probable que Sky ait vécu des violences quand elle n'était encore qu'un chiot. Je trouve ça beau de la faire travailler avec des femmes qui ont aussi vécu des choses. J'ai l'impression qu'elle le sent, dit Madame Renault. À la fin de la matinée, Léa Renault a commencé à rassembler ses affaires pour repartir à Trois-Rivières. Lucie Descostes est arrivée à ce moment-là pour dire au revoir à Sky. Elle s'est installée dans un fauteuil, puis a longuement flatté le chien. « Tu sais que tout le monde t'aime, hein, Sky ?» lui a-t-elle lancé. « Tu m'emmènes avec toi à Trois-Rivières ?» Sky lui a doucement léché le nez en guise de réponse. C'était « Un chien husky pour apaiser la souffrance », un texte de Chloé Bourquin paru le 19 octobre 2025 dans La Presse.
La générosité en excuse, un texte de Jean-François Nadeau, paru le 22 décembre 2025 dans Le Devoir. En 1881, le juge Basile Routhier, l'auteur des paroles du Haut-Canada, expliquait le monde à ceux qui l'applaudissaient lors de belles conférences. Les riches sont très riches et les pauvres sont très pauvres, expliquait-il en substance, parce que cela, au même titre que les étoiles dans le firmament, est voulu par Dieu. Les pauvres seraient donc appelés à demeurer pauvres, non par accident de l'histoire, mais par nécessité cosmique. Dans le ciel comme sur la terre, et dans l'immensité de la création, l'inégalité existe à l'état d'attribut essentiel des êtres, et elle existera aussi longtemps que le monde. » Martel Routier, en citant, à sa manière, des paroles de Jésus, « Vous aurez toujours des pauvres au milieu de vous. » À ses yeux, toute revendication d'égalité véritable menait droit au chaos révolutionnaire, la guillotine, le jacobinisme, le dérèglement de l'ordre social béni par l'Église. Mieux valait donc préserver une société hiérarchisée, unie dans la foi, où les différences de classe disparaissaient par enchantement à la seule évocation du mot « nation ». En 1911, Routier accède lui-même à la hiérarchie qu'il avait si soigneusement justifiée. Ennobli par le roi Édouard VII, il devient Sir Basil Routier. C'est l'aboutissement symbolique d'une carrière consacrée à la défense de l'ordre social existant. Dans le langage populaire, ces notables promus par la couronne, engagés dans la reproduction du système qui les récompensait, étaient surnommés les cirés. Quelques années plus tôt, lorsqu'il martelait avec assurance, du haut de sa notoriété, qu'il est vain d'aspirer à une justice sociale mieux régulée, le juge Routier n'était encore que l'orateur applaudi des salons. La consécration monarchique viendra sceller la cohérence de son discours, prêcher la résignation au nom d'un ordre présenté comme naturel, puis être élevé par cet ordre même. La conclusion du juge Routier s'imposait donc d'elle-même, puisque l'inégalité est naturelle, inutile de la contester. Les pauvres n'ont qu'à prendre leur mal en patience, dans l'espoir que, par magnanimité, les riches puissent parfois leur tendre la main. Cette conception du vivre ensemble repose sur la résignation des uns et la générosité des autres. « Sois bon et le riche te donnera », disait Routier pour résumer. Faut-il alors déduire que ceux qui ne reçoivent jamais rien sont par définition mauvais? Ce discours partagé par les élites de son temps permettait d'exercer la charité sans remettre en question les structures qui la rendaient nécessaire. La pauvreté est naturelle, alors que la générosité, elle, n'est toujours que facultative. On pourrait croire cette vision reléguée à un autre siècle. Il suffit pourtant de jeter un regard sur l'actualité pour constater que la logique de Routier perdure. Les figures ont changé, le décor aussi. Le scénario n'en demeure pas moins familier. Ici, un milliardaire amateur de voitures italiennes pose un visage souriant de la guignolée des médias. Là, un courtier immobilier se filme en train de distribuer des paniers d'épicerie, bien mis, bien éclairé, visiblement enchanté de la mise en scène. Ailleurs, un entrepreneur farouchement opposé à l'impôt offre de l'essence ou des denrées, le temps de figurer sur des vidéos. Tout cela repose sur une redistribution aléatoire, ponctuelle, entièrement soumise à la bonne volonté de ceux qui pratiquent la charité ostentatoire. Pareille mise en scène de la charité, hier comme aujourd'hui, continue de servir de substitut commode à la justice sociale. Elle soulage les consciences sans jamais inquiéter l'ordre qui produit la misère. Ces généreux de circonstances sont d'ordinaire faciles à repérer. Ils se désignent eux-mêmes en multipliant les preuves visuelles de leur bonté et des gratitudes qu'elle est censée susciter. Plus difficile est d'apercevoir ce que font ou ne font pas les personnes morales, ces entités qui concentrent pourtant une part considérable de la richesse, tout en demeurant remarquablement discrètes lorsque vient le temps d'en redistribuer les fondements. C'est peut-être cela que sont venus rappeler, à leur manière, les Robins des ruelles. en décembre, trois Pères Noël et une trentaine de lutins ont mené une action théâtrale dans une épicerie métro de Montréal. Ils se sont emparés de denrées alimentaires pour les redistribuer. Le geste, revendiqué comme politique, voulait dénoncer l'inflation alimentaire et l'emprise croissante de l'agro-industrie sur l'accès à la nourriture. La réaction ne s'est pas fait attendre. Enquête policière, condamnation officielle par l'enseigne commerciale, indignation face à ces Pères Noël jugés excessivement vengeurs. Dans la foulée, Métro s'est empressé de rappeler ses dons aux banques alimentaires. Plus de 80 millions de dollars en denrées et un peu plus de 1 million en argent. En 2025, la même entreprise déclare avoir engrangé plus d'un milliard de dollars de profits, une hausse de 9,4% par rapport à l'année précédente. Devant pareil tableau, faut-il rappeler que l'écart entre le million donné et le milliard encaissé est si vaste qu'il excède celui qui sépare une personne sans ressources d'un millionnaire? Un don d'un million représente à peine 1 $ sur 1 000 des profits gagnés par l'entreprise. Rapporté à l'échelle individuelle, c'est l'équivalent, pour une personne disposant d'un million, de donner 1 000 $ tout en clamant son extrême générosité. Ici encore, la charité ne réduit pas l'inégalité, elle la met en scène. Comment se porte la richesse? Du côté des plus nantis, les 560 individus les plus riches de la planète possèdent chacun plus de 6,5 milliards de dollars et ils ont vu leur fortune croître de 8,4% en une seule année. Les 56 000 personnes qui les suivent sur l'échelle des possédants concentrent, à elles seules, 3 fois plus de richesses que la moitié la plus pauvre de l'humanité, soit 2,8 milliards d'adultes. Tout cela, bien entendu, est parfaitement normal, naturel même. Qui oserait en douter? C'était « La générosité en excuse », un texte de Jean-François Nadeau, paru le 22 décembre 2025 dans Le Devoir.